France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, avec Perret Legras à la réalisation et Dalia à la technique. On commence donc une série de 8 épisodes sur les grandes idées qui transforment l'éducation. Et aujourd'hui, on va parler des tout petits bébés et de la théorie de l'attachement. Au XIIIe siècle, Frédéric II, roi de Sicile, veut savoir quelle est la langue qui vient naturellement aux enfants en l'absence de toute stimulation pour le langage. La consigne est alors donnée aux nurses responsables d'un groupe d'enfants de ne jamais leur parler. Tous les enfants mourront. Bonjour Antoine Guedenet.
Bonsoir.
Je tiens cette anecdote d'un de vos livres, vous en avez publié de nombreux, vous êtes professeur émérite de pédopsychiatrie, vous êtes co-auteur en particulier de l'attachement, approche clinique et thérapeutique avec Nicole Guedenet et Susanna Terreno et beaucoup d'autres auteurs, c'est publié chez Elsevier Masson. On va ensemble ce soir expliquer une idée essentielle pour comprendre les bébés, une idée si évidente et pourtant tellement moderne. En effet, c'est seulement au milieu du XXe siècle que John Bowlby et Mary Ainsworth mettent en évidence le besoin d'attachement de l'être humain dès le tout commencement de sa vie. Et cette découverte s'est faite dans un contexte historique précis. On écoute.
La ville de Londres renferme une quantité inimaginable d'aménagements importants au point de vue militaire. Des cales gigantesques borde tout le long de la rive, de la Tamise jusqu'à son embouchure. Un avion allemand du type U-88 s'apprête à décoller. La grande attaque sur Londres commence.
Attaque allemande aérienne sur Londres, et c'était dans les actualités mondiales du 2 octobre 1940. Alors, que s'est-il passé, Antoine Guedenet, dans cette période pour John Bowlby et les enfants britanniques ?
D'abord, merci de cette invitation et merci de mettre au début de votre série l'attachement. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est important dès le début de la vie de l'enfant. C'est la chose prioritaire, s'attacher. S'attacher aux personnes dont on est dépendante pour sa survie, pour son équilibre psychologique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre ? C'était le Blitz de Londres. Et le Blitz de Londres et des autres villes anglaises a conduit les autorités à séparer massivement les jeunes enfants, mais aussi les enfants, les adolescents, de leur famille pour les envoyer à la campagne. Et ça a fait des effets qui, encore aujourd'hui, sont discutés en Angleterre et qui ont eu des effets très, très durables. Et il y a deux psychiatres d'enfants, Donald Winnicott, pédiatre et psychanalyste, et John Bowlby, psychiatre et psychanalyste, tous les deux membres de la société anglaise de psychanalyse ont été en charge de voir les effets de ces séparations sur les enfants et de les suivre dans leur famille d'accueil et dans les institutions. Et donc, c'est cette sensibilité aux effets de la séparation qui a conduit John Bowlby à montrer ce besoin d'attachement. Et pour ça, il a suivi un raisonnement analogique. Il a dit, au fond, tous les mammifères, et il était très compétent en éthologie, tous les mammifères ont un comportement d'attachement. Vous pouvez l'observer. Chez les petits singes rhésus, ils s'accrochent à la fourrure de maman.
Chez les oies, comme
chez les oies de
Conrad Lorenz.
Et tous les mammifères.
Et les oies qui ne sont pas mammifères.
Je suis pas sûr.
Oui, voilà, mais je pensais à Lorenz. Et évidemment, bien sûr, ne nous écrivez pas. On le sait que les oies
sur Lorenz, c'était l'empreinte. C'était la première personne qui voit, elle s'y attache. Bref, attachement, il y a pour tout le monde. Et tous les mammifères ont un comportement d'attachement. Mais à ce jour, personne n'avait fait le raisonnement de dire « nous sommes des mammifères ». Et donc, nous devons avoir un développement du comportement d'attachement qui est observable chez le bébé humain, comme tous les mammifères. Et c'est ce que Bowlby a observé. Il l'a observé en voyant qu'il y avait des signes qui étaient communs, des signaux pour faire que le caregiver, la personne qui s'occupe, s'approche, et puis des signaux qui font que on maintient la relation. Bref, ces signaux, il a observé que certains étaient les mêmes chez les singes que chez les bébés, et d'autres étaient différents. Les singes ne sourient pas, le bébé sourit, et le sourire a une extraordinaire puissance d'attraction. Et voilà. Et donc, il a proposé ça, et dans sa société, ça a été très très mal reçu. On lui a dit, mais enfin, monsieur Bowlby, mais nous ne sommes pas des singes. Hein. Donc, il était un peu isolé. Et puis, Marie Selter Hansworth, qu'il avait engagé dans son laboratoire de recherche, parce que à l'époque, il dirigeait la Tavistock Clinic, mais la Tavistock Clinic, les Kleiniens trustaient les psychothérapies.
Alors ça, c'est des histoires aussi de querelles.
De querelles.
Dont on ne va peut-être pas totalement donner le détail ensemble, mais voilà, il y a des concurrences et aussi des querelles théoriques, hein,
oui,
entre les psychiatres et les psychanalystes.
Mais c'était très important à l'époque, parce qu'il y avait des gens qui disaient, au fond... ce qui est important, c'est la réalité de la relation. Et puis d'autres qui disaient, ce qui est important, c'est le monde interne du bébé. Et donc, ça s'opposait entre Kleiniens et Winnicottiens ou Anafreudiens. Et les débats étaient complètement fous. Hein. Par exemple, à un moment, il y a eu un débat à Londres, et puis il y a Winnicott qui, à un moment, arrête le débat entre Kleiniens et d'autres, et disent, mais je vous rappelle qu'il y a un bombardement qui se passe, il y a une guerre en cause. C'est-à-dire qu'il a fait un rappel à la réalité, quoi. Parce que les gens n'arrivaient pas à se décider qui avait raison entre ceux qui disaient que ce qui compte, c'est la réalité interne du bébé, et d'autres, ce qui compte, c'est la réalité externe. Et pour Bowlby, c'était clairement la réalité externe. C'est-à-dire qu'au fond, si un bébé ne va pas bien, c'est pas parce qu'il a un conflit interne, c'est parce qu'on ne s'occupe pas bien de lui de façon extérieure.
Parce qu'il a besoin de cet attachement qui est un lien vital, parce que les enfants à qui on ne parle pas, les enfants dont on ne s'occupe pas, dépérissent tout à fait. Il y en a un événement historique un peu plus récent, en 1990 en Roumanie, qui nous l'a rappelé.
Au début des années 90, le monde entier découvrait avec effroi les orphelinats roumains. Ces enfants que l'on croyait attardés ou autistes souffraient en fait d'une pathologie bien connue des pédopsychiatres, l'hospitalisme. Problèmes de croissance, retards intellectuels parfois irréversibles, les conséquences dramatiques de l'hospitalisme vont provoquer un changement radical dans la pratique de la pédiatrie. Elle prendra désormais en compte la psychologie du bébé et son besoin vital d'affection.
Alors, on décrit là l'hospitalisme, hein, des enfants en détresse affective. C'est un reportage qui a été rediffusé dans le magazine de la Santé sur France 5 en 2009. Je crois que vous intervenez d'ailleurs dans ce reportage, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, Antoine Guédonné. Si on doit parler des grandes idées qui changent l'éducation, c'est aussi de voir, quand il n'y a pas d'attachement, ce qui se produit, qui nous montre de manière éclatante, si j'ose dire, que ce besoin d'attachement, c'est ce qui nous permet de vivre.
Absolument.
Cet attachement.
C'est ce qui nous permet de vivre, c'est aussi ce qui permet à l'enfant d'apprendre le monde et d'apprendre comment le monde fonctionne. Mais parce qu'au fond, à quoi ça sert l'attachement ? L'attachement, c'est ce qui permet de surmonter le stress. Quand on a peur, quand on a mal, quand on a faim, froid ou la douleur. L'attachement, c'est uniquement dans ce contexte de stress que le système d'attachement s'allume.
Mais peut-être qu'on devrait dire ce que c'est, le système d'attachement déjà. C'est d'être attaché à sa mère, à son parent, à son caregiver, donc la personne qui s'occupe de vous.
Oui, à son
père, à sa mère. Et de l'avoir repéré, et d'en avoir éventuellement repéré plusieurs d'ailleurs.
En fait, le système d'attachement, c'est une stratégie. C'est au fond la stratégie que met en œuvre le bébé quand il a appris à quoi il doit s'attendre face à un parent. Et ce à quoi il s'attend de la part d'un parent n'est pas la même chose que ce à quoi il peut s'attendre de la part de l'autre parent. Donc, les choses sont bien faites. Il vaut mieux avoir deux sources de sécurité indépendantes plutôt que deux dépendantes l'une de l'autre. Et donc, ce à quoi sert surtout l'attachement, c'est au fond de supporter le stress, de réguler les émotions négatives.
Mais ça peut être aussi l'attachement à un grand-parent.
Bien sûr, voilà. À un frère et sœur, ou à une nounou, ou à une maîtresse d'école.
Donc on peut avoir plusieurs figures d'attachement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet attachement, pour nous, parents, c'est pas notre attachement d'adulte à notre bébé, c'est l'attachement du bébé. Mais quelle est la différence, Antoine Guédonné ?
Elle est énorme. Elle est énorme. La différence, c'est la stratégie. C'est au fond, l'attachement, c'est la façon dont je me débrouille pour obtenir l'attention dont j'ai besoin quand je suis en stress de la part d'une figure d'attachement. Et on prend la première figure d'attachement disponible. Évidemment, les parents sont attachés au bébé, ou à l'enfant, ou à l'adolescent. Mais l'attachement du parent, c'est l'attachement du parent face à ses propres parents quand il était enfant. C'est ça, hein, c'est ça dont on parle en termes d'attachement.
On va revenir sur cette question de ce qui peut se passer au fil des générations. Mais pour bien comprendre, l'enfant, le bébé qui a des stratégies, alors ce sont des stratégies de nourrisson, c'est sourire, babiller, pleurer aussi, pour appeler l'attention de ceux qui s'occupent de vous. Ces stratégies, elles changent suivant qu'on est face à une figure d'attachement plus ou moins fiable. Alors fiable, c'est le mot que j'utilise moi, c'est pas trop un mot qu'on trouve dans la littérature psychiatrique. On parle d'attachement sécure ou insécure plutôt.
Sécure ou insécure, et parmi les insécures, évitant ou résistant. Et encore une fois, l'attachement est une stratégie, c'est-à-dire c'est au fond la façon dont le bébé se débrouille pour anticiper, et les bébés apprennent très très vite à anticiper sur la réponse d'un parent. Au fond, si le parent répond de façon tranquille mais efficace, rapide et efficace, au moment où le bébé est en stress et en a besoin, alors le bébé éteint et calme son système d'attachement et reprend son travail de bébé qui est d'explorer le monde, avant tout le monde social et le monde des interactions. Si au fond, le bébé se rend compte, et il s'en rend compte très très vite, que quand il crie, quand il est en stress, ça stresse le parent, et qu'à ce moment-là, le parent s'éloigne, alors qu'est-ce qu'il fait ? Sa stratégie, c'est d'éteindre son signal de stress, c'est dire « moi-même pas mal ». Donc il ne crie pas. Il sourit avec, et ça permet de garder la proximité du parent. Et puis, si l'attitude du parent est imprévisible, c'est-à-dire qu'un coup, la réponse est adéquate et chaleureuse, et de l'autre, elle est éventuellement rude et évitante ou rejetante, alors la seule stratégie logique, c'est de monter le son, c'est de faire le koala et c'est de crier au loup. Et ça marche très très bien. Le cri du bébé humain, c'est un truc auquel aucun adulte ne peut résister. Le problème, c'est que les adultes qui sont pas très très bien dans leur tête, ils peuvent réagir de façon violente à ce stress. Donc c'est ça la stratégie. La stratégie, c'est de s'adapter aux parents pour en obtenir la plus grande proximité possible quand on en a besoin.
On comprend les bébés, mais est-ce qu'on peut aussi comprendre les parents ? Antoine Guédonné, est-ce que la théorie de l'attachement est culpabilisante pour les parents ? Parce qu'on n'est pas toujours à la hauteur.
Bon, vous savez, Freud disait, et il n'a pas dit que des bêtises quand même, il disait qu'il y a des métiers impossibles, président de la République, et effectivement, ça semble être le cas, psychanalyste et parent. Alors, psychanalyste, c'est un métier impossible, j'ai essayé, très difficile. Parent, oui, on n'est jamais à la hauteur, c'est toujours difficile, mais bon, l'attachement, ça veut dire, les parents savent combien... C'est difficile d'avoir quelqu'un qui dépend de vous. Et au fond, on va s'en occuper d'autant mieux qu'on s'est bien occupé de nous quand on était bébé. Hein. Donc, ça peut ne pas être si facile que ça pour les parents qui ont eu des enfances très difficiles. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont mal se débrouiller.
Pas forcément.
Au contraire.
Pas
non,
forcément.
La plupart du temps, ils vont très bien se débrouiller.
C'est un travail réflexif, la parentalité.
Oui, c'est aussi nos enfants nous aident à changer et puis l'autre parent nous aide à nous supporter eux-mêmes et à se débrouiller avec nos enfants.
Antoine Guédonné, si des idées ont changé l'éducation, et c'est le cas de la théorie de l'attachement, on doit dire comment et en quoi l'attachement de Bowlby et Ainsworth a changé par exemple les pratiques des soignants et les pratiques de ceux qui s'occupent des jeunes bébés, jeunes bébés forcément, des bébés et des jeunes enfants, dans les structures qui les accueillent.
Merci de la question. Effectivement, cette théorie de l'attachement qui n'est pas une théorie, qui est d'abord un fait clinique et un fait d'évidence scientifique.
Et en même temps, le terme consacré, c'est théorie de l'attachement.
Il y a aussi une théorie de l'attachement, en particulier quand on parle d'adolescence et de l'adulte, et c'est plus exactement la même chose, c'est plus des comportements. Là, on parle de pensée, de comportements mentaux. Donc, c'est différent. Et effectivement, il y a une théorie de l'attachement, mais il y a avant tout une évidence clinique que tout parent sait. C'est-à-dire qu'un bébé s'attache et a besoin de cet attachement. Et donc, ça a changé les choses. Et John Bowlby, avec son film « John à la nurserie », et avec les trois films qui étaient des recherches-actions, a changé les pratiques, en particulier en pédiatrie. Moi, il y a très longtemps, j'étais apprenti pédiatre et étudiant en médecine, et je me souviens encore de ces bébés qui étaient dans les berceaux, qui étaient comme des petites cages de zoo, et à qui on disait aux parents, partez sans vous retourner, ça va aller mieux. On tolérait jamais la présence des parents pendant les soins, alors que c'est là où l'enfant a le plus besoin de proximité physique pour supporter la douleur et la peur. Et donc ça a beaucoup changé, et ça a changé en Angleterre d'abord, sous l'effet des films de Bowlby. Et on a permis que les parents viennent, et on a limité les séparations que supportent très très mal les très jeunes enfants. Mais en France, ça a pris beaucoup de temps. Et l'ordonnance qui rend obligatoire de laisser les parents dans une hospitalisation de bébé, en France, elle est très très tardive.
Et c'est d'ailleurs encore une question discutée, par exemple, pour ce sont souvent des filles qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et d'anorexie. Et c'est aujourd'hui discuté de savoir s'il faut les isoler complètement de leur famille.
Il ne faut pas les isoler.
Ou non, c'est pour ça que je voulais parler de cette question.
C'est catastrophique et calamiteux, et plus personne ne le fait dans le monde médical. Peut-être il y a des gens qui font ça en France, mais non, c'est fini, on ne fait plus ça.
Ça a été beaucoup raconté par des anorexiques, ex-anorexiques. Et donc, cet attachement, il soigne, bien sûr, plutôt qu'il aggrave quelque mal que ce soit. Et aujourd'hui, dans les crèches, par exemple, on fait des semaines d'adaptation où on se sépare progressivement de son enfant en restant de longues heures à la crèche pour commencer l'année et parfois recommencer après les vacances. Est-ce que c'est une application des idées de Bowlby ?
Oui, sans doute. Quand cette adaptation est progressive et assez longue, et quand l'entrée en crèche n'est pas trop précoce, et surtout pour des périodes pas trop longues. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, l'attachement, ça soigne. C'est ce qu'on apprend de plus en plus dans les réanimations pédiatriques françaises, où on s'aperçoit que le pot à pot, le contact extrêmement précoce entre les prématurés et leurs parents, père et mère, c'est quelque chose qui a un effet vital et qui diminue la détresse des bébés prématurés et qui favorise leur croissance et leur amélioration rapide.
On peut passer aux enfants plus grands, peut-être, parce que il y a un élément dans la vie et le travail de Bowlby qui m'a extrêmement intéressée, c'est son étude sur des jeunes voleurs, 44 jeunes voleurs. Et il s'est servi, en fait, de leur parcours de vie, puis aussi de les faits qu'ils avaient commis, pour essayer de comprendre, en fait, ce qui causait ces comportements chez eux. Et là aussi, il est question d'attachement, Antoine Guédonnet.
Oui, il n'a pas prononcé le mot dans cet article formidable qui, à mon sens, fonde la pédopsychiatrie moderne. Il s'est occupé de jeunes voleurs, que personne ne s'en occupait à l'époque. Hein. Et il en a vu une série de 44, et il les a tous vus en entretien individuel, il leur a fait passer des tests, et il a retracé leur histoire familiale. Il faut savoir que, pour Bowlby, comme pour Mary Ainsworth, ce qui était vraiment important, c'était au fond, dans quelle mesure, comprendre comment les relations familiales favorisent pas la sécurité ou l'insécurité, mais la psychopathologie, le fait d'être bien dans ses baskets ou le fait d'avoir des troubles d'adaptation et de difficultés. Ça, c'est la clé de l'affaire. Et Bowlby, avant d'être psychiatre et psychanalyste, il a travaillé dans une sorte d'institution pour enfants difficiles. Et au fond, il a été avant tout psychothérapeute, ce qui est assez peu connu, et un psychothérapeute doué. Et donc, c'est ça qui l'intéressait le plus, c'est l'effet de ces relations familiales dans le développement précoce et dans le développement ultérieur. Donc, il a regardé ces 44 jeunes voleurs et il a vu qu'il y avait de tout. Et puis, il s'est aperçu qu'il y avait un sous-groupe de ces enfants qui était très particulier. Ils étaient tous intelligents ou très intelligents. Ils n'avaient pas de psychopathologie, ils n'étaient pas débiles, ils n'étaient pas psychotiques, ils n'étaient pas particulièrement anxieux. Et mais ils étaient très voleurs. Et au fond, ils avaient quelque chose dans le contact qui était particulier, et ils les appelaient les petits voleurs sans affect. Parce qu'au fond, dans la relation, il ne se passait rien. Tout ce qui les intéressait, c'était les objets, l'argent, les choses à avoir. Puisqu'ils n'avaient plus confiance dans les relations les avaient trahis. Et il s'est aperçu que dans ce groupe, de façon très significative, dans un test de Key 2, qui est le premier et le dernier jamais paru dans le journal de Freud, de façon très significative, ces enfants avaient été séparés de façon précoce et longue, ou bien exposés à des violences intrafamiliales. Donc ça, c'est cette chose-là. Maintenant, en France, il n'y a pas un juge pour enfants, pas un psy, pas une assistante sociale, qui au fond, face à un enfant qui ne va pas bien, ne se demande pas qu'est-ce qu'on lui a fait. Mais en 1943, il n'y avait que Bowlby pour dire ça. Et d'ailleurs, tous ses collègues se fichaient chez lui en parlant de Bowlby et ses 44, Ali Bowlby et ses 44 voleurs. Mais au fond, c'est lui qui a fait cette première étude clinique d'une cohorte et qui a mis le doigt sur ces enfants qui avaient été esquintés par des expositions à des violences intrafamiliales ou à des séparations très prolongées.
Des séparations qui changent la vie, qui changent la manière d'appréhender le monde dans l'enfance et sûrement pour tout le reste de l'existence. Mais est-ce que ça se répare, Antoine Guédoni? Si on parle d'un lien vital, si ce lien a été abîmé, est-ce que on peut, adulte, travailler sur son attachement?
Oui, on peut toujours réparer. Moi, j'aurais pas fait le métier que j'ai fait pendant si longtemps avec tant de plaisir si je pensais pas qu'il y avait toujours quelque chose à faire. Et effectivement, quand les choses n'ont pas été trop longues et trop catastrophiques, les choses peuvent se réparer considérablement. Les études qui ont été faites sur les orphelinats, les enfants dans les orphelinats roumains, qui ont été adoptés au Canada et en Angleterre, et dans des familles d'accueil roumaines, montrent qu'effectivement, la résilience est extraordinaire. Quand il y a eu un petit peu d'espoir quelque part, quand il y a eu ce que Boris Cyrulnik appelle merveilleusement les tuteurs de résilience. C'est-à-dire quelqu'un, quelque part, ça peut être une famille d'accueil, ça peut être un enseignant, ça peut être une rencontre amicale ou thérapeutique, quelqu'un qui vous donne le sentiment que tout n'est pas chaotique et que vous avez une certaine valeur dans le regard de quelqu'un.
Une question qu'on pose souvent dans Être et Savoir, où on parle d'éducation, c'est pourquoi les enfants n'arrivent-ils pas prêts pour, je sais pas, le collège, le CP, même la maternelle? On se demande si on n'aurait pas pu travailler les choses avant. Et la question de l'éducation parentale mérite peut-être d'être posée. Je ne sais pas si vous la posez. Je sais que vous avez fait un petit tour à la commission des 1000 jours qui parlait de politique de petite enfance et qui a eu lieu il y a 2 ans et l'année dernière encore, je crois, Antoine Guédoni. Finalement, est-ce qu'il faut former les parents? Est-ce qu'il faut leur apprendre ce que c'est que l'attachement et qu'il faut en prendre soin, à vos yeux?
Je suis pas sûr qu'il faille leur apprendre, mais on peut leur montrer l'extraordinaire sensibilité du bébé humain au fait que un autre humain s'intéresse à lui et respecte sa grande sensibilité à la relation. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, là, je suis en train de vous parler, et là, je vous ai fait un truc qui était, évidemment, à la radio, ça se voit pas, mais je vous ai fait un visage immobile pendant 1 seconde et demie. Et au bout de 7 secondes et demie, à un moment, vous avez dit, hop, tiens, mais qu'est-ce qui se passe là? Quelque chose s'est allumé en vous, immédiatement. Et comme ça se fait chez tout le monde. constamment. Parce que nous sommes perpétuellement branchés, qu'on dorme ou qu'on dorme pas, 24 heures sur 24, sur la relation avec l'autre. Et le bébé aussi, dès le début de sa vie. Et donc le bébé, il est extraordinairement sensible à la relation à l'autre, parce que c'est au fond de ça dont il vit, c'est grâce à ça qu'il découvre le monde. Et il a une appétence pour découvrir le monde absolument extraordinaire. Mais si on viole cette curiosité, si on distord les choses, ça va faire des dégâts, ça va... Par exemple, c'est ce que nous voyons, si au fond... Si votre bébé vous fait l'honneur et le privilège de jouer avec vous, de rire avec vous, hein, et les bébés sont merveilleux parce que, quel qu'on soit, ils rentrent en communication, ils veulent le faire. Et si à ce moment-là, vous préférez, votre portable sonne et que vous décrochez, vous interrompez la relation, bon, si vous le faites une fois, c'est pas trop grave, mais si vous le recommencez le plus souvent, ne vous étonnez pas si, devenu adolescent, votre bébé préférera être sur les réseaux sociaux que de parler avec vous, puisque vous lui aurez montré que vous préférez la relation à distance à la relation proximale, que vous êtes prêt à le laisser tomber brutalement pour répondre à je ne sais qui.
Est-ce que aujourd'hui, ces histoires d'attachement un peu abîmées par ces relations à distance, sur écran, les yeux rivés sur des tout petits objets qui sont dans nos poches et souvent dans nos mains, abîment des relations. Est-ce que ça arrive jusqu'au cabinet des psychologues et des psychiatres ?
Oui, sans doute, mais je pense que les jeunes parents se rendent compte maintenant. On est une génération de jeunes parents qui étaient extraordinairement addicts au portable. Les gens de ma génération ne l'ont pas été du tout de la même façon. Et aussi, ces jeunes parents, je vois qu'ils sont conscients de cette addiction. Et le moment où ils ont un bébé, c'est aussi celui où on peut les aider à prendre distance avec ça et à mesurer les choses. Ils peuvent. La meilleure chose à faire, c'est d'aller sur YouTube et de regarder. Il y a une maman qui décroche, qui est avec son bébé. Ça se passe super bien. Le bébé a 2-3 mois et puis son téléphone sonne, elle décroche. Et on pourrait montrer ça. Le bébé, oh, c'est pas très sympa. Et puis elle continue à parler, et là, il continue à faire la gueule. Et puis après, elle finit par raccrocher, et le bébé continue, heureusement, à lui faire la gueule. Donc ça, il suffirait de montrer ça, histoire sans parole. Ça suffit de voir ça. Ça suffit de montrer ça. Ou de montrer le fait du still face. Maman fait un visage immobile, et puis on voit que le bébé se proteste, et au bout d'un moment désorganise. Il suffirait de montrer ça pour que les gens se rendent compte de l'extraordinaire sensibilité du bébé humain à l'interaction et à la relation humaine.
Ça continue quand on grandit, ça continue avec les adolescents. Que faire pour nous, parents, pour demander aux adolescents de nous regarder et de nous prêter de l'attention comme nous leur en avons prêté quand ils étaient plus petits, et que cette relation d'attachement, elle continue à vivre malgré ces outils qui perturbent, et puis malgré parfois l'envie d'être moins tournée vers nous, Antoine Guédonné.
Elle continue cette relation d'attachement à l'adolescence, et c'est pas parce qu'ils ont l'air de s'en éloigner qu'ils en ont pas particulièrement besoin. Et les adolescents qui vont bien sont ceux qui ont une base de sécurité parentale sécure. C'est ceux-là qui se débrouillent. Mais il ne faut pas leur demander de prêter attention à nous tout le temps et d'être d'accord avec nous. Mais une certaine forme d'exigence est importante, et c'est quelque chose qui leur garantit la sécurité. Qu'on soit capable de leur dire non, de ne pas passer en disant « je suis désolé, c'est moi qui commande ici et c'est moi qui décide ». Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est comme ça. Et être capable d'affronter ça, c'est ça qui leur donne aussi un sentiment de sécurité. Alors ils vont crier, tempêter, claquer la porte, mais finalement ils sont bien contents que ça résiste.
Peut-être. Est-ce qu'on peut, pour terminer, évoquer juste la politique ? Il faut du temps pour les parents, du temps pour prendre soin de leur bébé, être en forme, pour bien répondre à ses demandes, pour pouvoir stimuler son enfant. Ça compte, ce temps du congé parental, maternel, paternel ?
Maternel ou paternel, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit payé et assez long. Un pays qui est quand même proche du nôtre, le Canada a rendu ce congé paternel obligatoire. Et leur premier ministre précédent, il a été obligé de le prendre et il a dit à tout le monde combien il en avait été important, parce que c'est tellement important. Nous, les hommes, on joue vraiment un rôle important dans le développement de nos enfants.
Les hommes et les femmes, donc aux avant-postes pour l'attachement de leur bébé. Et c'est le bébé hein, qui fait le boulot, si on l'a compris, avec vous, Antoine Guédonné. Je rappelle le titre du livre, L'attachement, approche théorique et évaluation, publié chez Elsevier Masson. C'était la 5e édition, celle que j'ai lue. Merci beaucoup. On retrouve très vite le 2e épisode de cette série sur les idées qui changent la parentalité avec Parler au bébé. On va évidemment évoquer Françoise Dolto avec Elisabeth Brami.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
2e épisode d'une série de 8 podcasts sur les grandes idées qui transforment l'éducation et la parentalité. Parler au bébé, ça a été une idée révolutionnaire. Regarder un nourrisson s'adresser à lui en changeant les couches, en le nourrissant, en jouant, en donnant un bain, c'est à la fois banal pour de nombreux parents et complètement nouveau dans l'histoire de l'éducation. Le soin des tout-petits a totalement changé et nous souhaitions réfléchir à cette révolution initiée par Françoise Dolto. Nous sommes des êtres de langage dès les premiers jours de notre vie. Parfois, les non-dits nous abîment longtemps. Et les bébés peuvent entendre certaines choses.
Bonjour Théo.
Célex.
Je m'appelle Karine. Je suis éducatrice spécialisée. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargés de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. On t'accueille comme tu es. Si ta maman maintient son choix, des personnes vont prendre une décision pour toi. Et tu auras un papa et une maman d'adoption pour la vie. Si elle se rétracte, alors on l'accueillera et on l'aidera à te retrouver et à s'occuper de toi.
Sandrine Kiberlin dans le magnifique film Pupi de Jeanne Herry, sorti en 2018. Sandrine Kiberlin qui s'adresse à un nourrisson né sous X et on entend l'accélération des battements de son cœur. Bonsoir Elisabeth Brami.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue, clinicienne et écrivain. Vous écrivez pour la jeunesse, comme « Je ne suis pas le doudou de mon papa » chez Talent Haut. Et vous avez publié « L'éducation selon Dolto », ce qu'elle a vraiment dit pour aider les parents chez Albin Michel Poche en 2021. Vous l'avez écrit, ce livre, avec Patrick Delaroche. Alors, je le disais, parler aux enfants, ça a pu, aux bébés surtout, ça a pu paraître une idée farfelue au départ. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de parents le font. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire parler à son bébé? C'est vraiment s'adresser à son bébé, c'est pas parler en présence de son bébé, c'est lui dire quelque chose.
C'est parler à son bébé, c'est pas parler de son bébé, c'est pas parler au-dessus de sa tête dans un téléphone, c'est parler à lui en personne. Et je suppose que si ça a mis autant de temps à être compris par les parents, c'est que longtemps, on a considéré que le bébé n'était pas une personne. Il faut revenir à ça. C'est-à-dire, c'était une espèce de petit rôti qu'on passait dans un petit portillon pour le déposer dans une pouponnière, où on l'accrochait au mur en Bretagne pour aller au champ. Enfin, c'était un truc qui n'était pas fini. Et comme ça ne parlait pas, puisque enfant veut bien dire ne parle pas, qui ne parle pas, ben, ce qui ne parle pas, théoriquement, ça doit pas comprendre non plus. Il faudrait demander, d'ailleurs, moi j'ai souvent, j'ai pas eu l'occasion, mais il faudrait demander aux enfants muets, sourds-muets. Ils ont certainement une autre façon d'être considérés par les gens de la rue, hein, dans un bus, etc. On s'adresse pas à eux de la même façon, parce que on est persuadé que celui qui ne parle pas ne comprend pas. Et longtemps, on a eu ce préjugé. Le bébé ne comprenait rien. Donc, on pouvait dire n'importe quoi devant lui. Et c'est une grave erreur, parce que l'enfant, il est tout neuf. Il est comme une sorte de... Vous savez, les micro-sillons, là, les premiers disques qui étaient en cire, eh bien, tout se grave pour toujours. la mémoire fonctionne et les premières fois sont décisives. D'ailleurs, Dolto disait très justement, tout ce qui est dit au-dessus du berceau marque l'enfant. Et enfin, ça rejoint un petit peu les contes de fées, les mauvaises marraines qui souhaitent les pires horreurs ou bien
les fées au-dessus du berceau de Cendrillon.
Mais ça marque, les paroles marquent.
Mais Elisabeth Brami, pourquoi est-ce que le langage corporel ne suffirait-il pas ? On a parlé dans le premier épisode d'attachement, on s'attache, on est dans le pot à pot qui est tellement important.
Oui, mais on n'est pas des sages.
Et on communique.
On n'est pas des sages. Les singes sont merveilleux, hein, et il y en a qui apprennent le langage des sourds-muets d'ailleurs. Mais le rapport au langage entre êtres humains, c'est-à-dire entre un parent et un bébé, c'est pas du tout la même chose, parce que le langage, c'est du symbolique. Quand je dis un lapin, il saute pas là sur votre table. C'est un lapin. Vous avez dans votre tête un lapin. Moi, j'en ai un autre. Peut-être que le vôtre est blanc, le mien est noir, ou peu importe. Mais l'enfant, lui, il sait que chaque mot correspond à quelque chose. Très vite. Il sait, par exemple, Winnicott, qui était génial, parce que bon, on parle de Dolto, mais enfin, Dolto, elle fait partie de tout un mouvement. L'enfant est une personne, il y a quand même eu Freud, la psychanalyse, il y a eu beaucoup de choses, hein. Elle n'est pas tombée du plafond. Elle était simplement, elle avait des intuitions. Sa grande qualité, ça a été qu'elle n'a pas oublié comment c'était quand elle était bébé. Voilà. Et quand elle était petite. Et elle n'a pas oublié la première baffe qu'elle a reçue quand, pendant la Première Guerre mondiale, elle voit la voisine arriver auprès de sa mère, pleurer, et la môme, elle a 4 ans, et elle dit, en tirant un peu la robe de sa mère, mais la dame, elle a quoi ? Et pourquoi elle pleure ? Et sa mère lui dit, elle a perdu son mari. Et la môme, qui n'était pas idiote, qui s'appelait pas encore Françoise Dolto, mais Françoise Marette, dit, bah, elle a qu'à le chercher. Elle a qu'à le chercher. Voilà. Donc là, le rapport au langage, il est là. Il est très précieux.
Qui évoque d'ailleurs dans ses écrits et dans sa biographie sa propre enfance, qui évoque aussi l'enfance de ses enfants à elle, puisque elle a parlé à ses enfants,
ce qu'elle préconise,
elle le pratique. Alors, est-ce que ça demande des compétences particulières ? Parce que le langage et le fait de parler avec aisance, c'est quand même pas socialement également distribué. Est-ce que ce serait pas une pratique un petit peu de gens qui lisent des livres ? Non, mais je vous provoque.
Non, fichez-moi.
Et qui vont faire des grandes phrases pour tout expliquer à leurs enfants.
Non, on n'est pas obligé de connaître tout Proust et de le lire à son gosse de 2 ans ou 1 an dans son berceau. Pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très fatigant d'expliquer comment Dolto naturellement disait parlez-leur, bon Dieu, ben parlez-leur, mais normalement. Et que ça a été entendu comme il faut savoir leur parler. Non,
c'est pour ça que je vous pose la
question. Il n'y a rien à savoir. Faites-le, faites-le comme si vous étiez un animal. Alors chantonnez si vous n'avez rien à dire. Sortez votre petit de 3 jours de son berceau et dites-lui regarde comme il fait beau ce matin. Et je reprends à Winnicott que j'ai laissé tomber en panne là, mais à tort. Une mère qui dit de loin de la cuisine le biberon arrive, t'inquiète pas parce que le gosse commence à brailler, à pas être content. Bah, le môme. Il sait ce que ça veut dire. Au bout d'un moment, il sait que le biberon va arriver. Et Winnicott, qui était très marrant, disait « C'est comme ça que naissent les artistes. » Parce que l'enfant qui attend dans son berceau et qui entend « Le biberon va arriver », il a déjà ce biberon dans la tête et il invente tout le scénario autour du biberon « Et je vais téter, je vais me régaler, etc. etc. »
Et c'est le début d'une histoire. Alors,
le début d'une histoire.
Quand j'ai choisi l'extrait du film Pupi, je me suis dit, bon, voilà, on est dans le cas vraiment typique de ce que peut décrire Dolto.
Oui, oui.
C'est, on révèle quelque chose
bien
à
sûr.
L'enfant, on lui dit quelque chose d'important sa vie, pour qu'il le sache tout de suite.
Oui.
Mais on n'est pas obligé et on n'a pas toujours une révélation à faire à son enfant. Et est-ce qu'il faut comme ça rendre... Non, parce qu'il y a quelque chose de très lourd dans cette idée de parler à l'enfant.
C'est très important de dire à l'enfant ce qu'il en est. Par exemple, quand on voit qu'un enfant est en train de maigrir, que la mère va pas bien, on peut très bien prendre l'enfant à part et lui dire, tu sais, en ce moment, ta maman ne va pas très très bien, c'est pour ça que tu manges moins bien, mais tout va s'arranger, on va s'occuper de ta maman. Ben ça marche. Ça marche. Ça marche. Le gosse, il en sait plus que les parents, des fois.
Alors, bien sûr, on imagine des biberons quand on prononce le mot. D'ailleurs, il ne faut pas le dire si on n'a pas un biberon dans le coin, à mon avis, quand on a un bébé affamé. Mais est-ce qu'on parle aux enfants pour leur apprendre à parler?
Mais
est-ce que leur apprendre à parler, c'est la même chose qu'être dans le langage? Et expliquez-nous la différence, Elisabeth.
Écoutez, être dans le langage, c'est être dans le décodage du monde pour lui. C'est-à-dire, on se promène dans un appartement avec un bébé et on commente, on fait l'imagerie du père Castor, quoi. On dit, là, il y a les rideaux, et là, t'as vu, il y a ton papa qui est sur le canapé. Enfin, là, j'exagère, parce que, bon, admettons qu'il soit pas dans... Il est en train de faire à manger.
Qu'il passe l'aspirateur.
Voilà. Et là, il y a ceci, il y a cela. On raconte le monde à l'enfant. Parler, c'est raconter une histoire. Et c'est mettre des mots et c'est faire entrer l'enfant dans le symbolique, c'est-à-dire que tous ces mots, il va les retrouver ensuite en dessin, il va les retrouver évoqués dans des histoires, dans des chansons, il entendra le mot chat. Le chat, ça ne sera pas forcément celui qui a des poils et qui est là dans l'appartement. Il n'y a pas d'apprentissage a priori. Il y a à parler et même à bêtifier si on veut. C'est le son de la voix qui d'abord est important. D'abord, c'est la musique des mots. C'est la musique. Je me souviens, j'avais fait une anthologie de poésie pour les petits et un père est venu me prendre un bouquin. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me dise « Ma fille a 2 ans et demi, tous les jours, tous les soirs, je lui lis un poème. » Et il a ajouté « Je me fiche complètement de savoir si elle comprend le poème. Moi, ça me fait plaisir et je crois que ça lui fait plaisir aussi. » Peu importe le sens, il est dans le son de la voix, voilà. Et d'ailleurs, je peux vous dire un truc, si vous dites à un enfant que vous l'aimez et vous le détestez, ou il vous exaspère, il sait que vous êtes en train de le truander. Je me souviens d'une photo que j'ai faite d'une amie à moi, en train de changer son enfant. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, c'était son premier, voilà, la couche pleine de caca... Elle faisait une grimace dingue. Je m'en aperçois quand je développe la photo. Mais je me souvenais parfaitement que pendant qu'elle le changeait, elle lui dit « Oh, le beau caca, comme il est mignon ce caca, comme il est beau, les petites fesses. » Pas du tout. Le gosse, il a vu la tête de la mère. C'est ça qui compte. La tête était dégoûtée.
Donc il comprend aussi que le langage peut être une ruse, cet enfant.
Il y a le langage des signes, il y a les langages des symptômes. Dolto, elle comprenait très bien les enfants par le corps parle.
Et vous avez prononcé, Elisabeth Brahmi, le mot bêtifier, qui moi m'intéresse beaucoup.
Oui.
Parce que Dolto, elle a plutôt tendance à dire qu'il faut parler assez sérieusement aux enfants,
en tout cas
s'adresser à eux comme des personnes.
Oui.
Donc, pour moi, pas forcément bêtifier.
Non, mais alors, je suis bien placée pour vous répondre parce que j'ai fait le dico des bébés il y a des lustres et que je pense que tous ces petits mots, caca, je sais pas quoi, et même caca boudin, tout ça c'est très marrant et tout ça c'est très bon pour la santé. Bêtifier, je le disais, parce que ça peut être même des onomatopées qui sortent de la bouche du parent. Quand on embrasse un gosse, quand on le chatouille, on fait des trucs comme ça, quoi. On a le droit d'être un peu gâteux et d'inventer des mots et de trouver des petits surnoms débiles. Et c'est pas grave. C'est mieux que de se taire ou d'attendre la grande idée parce qu'on a entendu une émission un jour à la radio ou lu dans un livre que, ah non, mais il faut parler au bébé. Parce que, alors, ça coupe, ça scie les pattes des parents. Si on attend d'être génial pour ouvrir sa bouche, c'est grave. Alors, pour en revenir à ce que vous disiez sur les enfants qui ont besoin d'entendre leur histoire, le secret de famille, etc., ça, c'est important de parler, bien évidemment. Un enfant a besoin de savoir, pour grandir, ce qu'il en est de sa personne et de sa place dans la fratrie, et qui est quoi.
Qui sont ses grands-parents?
Qui sont ses grands-parents? D'ailleurs, elle était adepte de l'arbre généalogique très tôt. Et les enfants en ont encore plus besoin de nos jours parce que les familles sont tellement explosées qu'on ne sait plus qui est quoi. Hein.
recomposer, souvent. Oui, on dit plutôt ce mot en général. Alors, cette idée de parler aux enfants, et particulièrement aux bébés,
oui.
Elle n'était pas la seule à la formuler, évidemment, Françoise Dolto, mais c'est elle qui l'a portée en France. Oui. Et cette idée paraissait folle. Je vous propose d'écouter Elisabeth Brami, un extrait d'Apostrophe. Vous vous souvenez de cette émission?
Oui.
Mais quand vous commencez à parler à des bébés, même, comme s'ils allaient pouvoir vous répondre, on a dû quand même beaucoup se moquer de vous.
Oui, j'étais un peu la zinzin de service. On s'amusait de me voir parler avec les enfants.
Mais certains devaient penser que vous étiez toqué, non?
Oui, sûrement. Oh, non. Mais enfin, c'est vrai que j'ai cette peut-être une conviction, c'est une manière de vivre, qui est que l'interlocuteur le plus jeune est encore plus malin que le plus vieux. Un peu comme une partie qui n'est pas encore jouée, qui a toutes les potentialités.
Dans ce dialogue avec le bébé, j'arrive à croire qu'il puisse vous comprendre, mais vous il n'a rien à vous dire.
Je ne comprends pas ce qu'il me dit, mais je sais qu'il me dit. Il me communique sans arrêt. Et moi, je sais que j'essaye de le comprendre et qu'il sent que je ne le comprends pas tout à fait. Mais c'est ça le travail entre nous.
On vient d'écouter Françoise Dolto avec Bernard Pivot, évidemment, dans Apostrophe. J'ai évidemment, parce que pour moi, je reconnais très très bien sa voix. C'était en 1987. On parle des grandes idées qui ont changé la parentalité. Je crois que parler à ses enfants en fait partie. Mais il n'y a pas seulement en parler. Et elle est intéressante, cette question de Bernard Pivot. C'est écouter aussi un enfant dont il décrète d'ailleurs qu'il n'aurait rien à dire.
Bien sûr. Mais moi, je pense que si on a aussi peu parlé aux enfants et beaucoup plus aux chiens et aux chats pendant longtemps, c'est qu'on avait peut-être peur de la réponse des mômes. Voilà. Parce qu'en fait, l'enfant devait rester, soi-disant, sous l'autorité ou dans la dépendance de celui qui sait. Celui qui sait, c'est le parent, c'est la grande personne, c'est l'adulte. Et on ne s'adresse pas à lui. Parce que si jamais il répondait, d'ailleurs, il y a des films d'horreur où le bébé se met à parler, on le sait. C'est vrai, non? C'est portable. Et le bébé, on sait qu'il sait des choses. De toute façon, il y a quelque chose, même si, là, je caricature méchamment, mais il y a quelque chose d'intimidant chez un bébé. Il y a des parents qui parlent au bébé in utero. Et c'est très bien. Puis l'autonomie, on peut en connaître, etc. Que les gosses réagissent, c'est évident. On a attendu d'ailleurs d'apprendre que, et c'était au moment où Dolto parlait à ses bébés, au bébé, que l'enfant entendait tout autour de 6 mois, comme s'il était dans la chambre, dans la piole. Mais ce qui est certain, c'est que la peur d'entendre le bébé vous répondre. Voir le regard de l'enfant sortir, c'est un étranger, c'est quelqu'un qui parle une langue étrangère. On va mettre un temps fou à décoder les cris, les pleurs. Il y a des mères et des parents qui sont très très paniqués quand ils entendent pleurer. C'est très très difficile à supporter. Mais très vite, on se dit ah ouais, ça c'est le pleur des fesses et ça c'est la faim et ça c'est le sommeil, il est énervé. Il y a des pleurs. C'est un langage. Aussi.
Et puis, ensuite, l'enfant entre dans notre langage, oui. Il parle avec des mots, et ces mots, on peut les écouter là aussi. Je pense qu'il y a une peur, et la révolution, c'est peut-être pas seulement de parler à ses enfants, c'est d'écouter ce que les enfants
évidemment.
Plus grands ont
évidemment.
À nous dire, et de l'écouter vraiment, pas juste de l'entendre, Elisabeth.
Oui, quand elle dit que c'est dans la relation, c'est, en fait, parler, c'est entrer en relation. C'est une relation, la parole. Et la parole, même quand l'enfant ne parle pas, il y a dialogue. Il y a dialogue, parce qu'il a sa façon à lui de répondre. Et dans son silence, il y a des trucs où il se met à baver, où il se met à se marrer, où il cligne des yeux, où il serre les poings. Il a une réaction. Il est pas idiot.
Mais... Venez là où je vous emmène, sur l'enfant qui parle, l'enfant qui dit des choses qui, par exemple, ne nous plaisent pas.
Oui.
Parce qu'il y a un peu de domination dans l'éducation.
Oui.
Alors, peut-être pas chez tout le monde, mais
tais-toi,
en tout cas,
c'est quand tu seras plus grand.
Il y a des grands et des petits.
Oui, oui, oui.
Et ça, évidemment, fait toute la relation.
Oui.
Le fait d'écouter l'enfant, d'écouter ce qu'il a à dire.
Oui.
Ça aussi.
Ah bah ça alors évidemment, ça.
De Dolto et des psychiatres du XXe siècle ont complètement changé la vision de l'éducation. Ah. Mais ça, c'est une révolution en fait au mi-temps de ce siècle-là, qui a complètement changé la parentalité. Alors tout le monde n'écoute pas ses enfants aujourd'hui, loin de là.
Mais c'est ce qui a coûté à Dolto cette étiquette de fabrique de l'enfant roi, à tort. Parce que il n'y avait pas plus, fabrique de la frustration qu'elle. Elle tenait énormément à ce qu'on dise non à l'enfant, qu'on sache lui donner des limites, mais on lui devait aussi une écoute. Et cette écoute, elle existait même du temps de Janusz Korczak en Pologne, bien avant.
Oui,
le droit
dans
de l'enfant au respect,
oui.
C'est quelque chose. C'est-à-dire, l'enfant, il a des choses à nous apprendre aussi. Et on ne peut pas tout comprendre de lui si on n'entend pas ce qu'il dit. Et autrement, si on ne l'entend pas, finalement, il se met à somatiser, à parler avec son corps. Il se met à avoir plein de boutons dans les fesses, sur les fesses, à plus bouffer, à plus dormir. Et alors ça devient beaucoup plus compliqué. Mais on peut très bien entendre et ne pas être d'accord avec. C'est un dialogue.
C'est drôle d'ailleurs qu'on ait assimilé l'idée d'écouter les enfants à l'idée de céder à leurs envies, voire leurs caprices.
Mais pas du tout, au contraire, c'est un dialogue, on peut ne pas être d'accord, on discute, mais bon, ça va. Au bout d'un moment, le parent dit, je suis désolée, mais c'est la loi, c'est comme ça, tu coucheras pas avec ta mère, tu coucheras pas avec ton père. Dolto disait d'ailleurs très justement, à 3 ans, quand il rentre à l'école, un gosse, il doit connaître son nom de famille, son vrai prénom, parce que c'est Titi, Riri, Fifi, Loulou... Il ne sait même pas comment il s'appelle. Et puis, connaître la loi de l'inceste, c'est évident. Il y a des choses... 3 ans, c'est beaucoup déjà d'élevage.
C'est,
pour entrer en société.
C'est déjà un âge où on parle.
Souvent, quand on est
petit enfant, même si on s'en souvient pas très bien. Je reviens sur cette idée de se parler, de s'écouter.
Oui.
Ce qu'on voit dans les affaires de violence, et il y a sans cesse des révélations,
bien sûr,
à la fois autour de la violence de l'inceste, dont on,
oui,
comprend qu'elle est si présente dans notre société, de violence dans des écoles, dans des pensionnats catholiques. Il y a beaucoup d'affaires qui montre qu'on n'a pas du tout écouté les enfants et que c'est plutôt le règne du non-dit. Qu'est-ce que ça vous apprend pour nous de notre société ? Parce que, évidemment, tout le monde
ne me faites pas partir sur ce terrain-là, c'est une horreur. L'année dernière, j'ai sorti « Je ne suis pas le doudou de mon papa ». C'est un livre pour les enfants de 7-8 ans, parce que je voulais qu'ils aient une autonomie de lecture et que je ne compte pas sur les adultes pour leur offrir un bouquin sur l'inceste, mais il s'agit d'inceste. Et ce qui a été très, très difficile pour moi, c'est d'arriver au moment où l'enfant va pouvoir le dire. Alors certes, tout le monde le sait, il faut que tu trouves quelqu'un à qui le dire, c'est très important, t'iras mieux si tu le dis, enfin bref. Oui, mais comment, qui ? L'instit, elle passe à côté, la directrice aussi, à peu près. Et il faut qu'il pique sa crise à la fin et qu'il réveille sa mère d'un électrochoc. Mais c'est pas évident de parler et de trouver... D'ailleurs, on voit très bien que les femmes violées, elles mettent 50 ans à parler. Vous voulez pas qu'un gosse aille dire à la maîtresse...
Et quand elles parlent, est-ce qu'on les écoute ?
Non, et puis non seulement le pire, c'est pas qu'on les écoute pas, c'est qu'on dit que c'est pas vrai. Ça c'est encore le pire. Mais je pense que vous disiez, qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants quand on ne sait pas quoi leur dire, etc. Mais il y a les bouquins. Moi, je fais des bouquins pour enfants, c'est exprès pour ça. C'est des passerelles entre le parent et l'enfant. Il n'y a pas mieux que ça. C'est pas pour en faire des intellos, ils n'auront pas Polytechnique avec moi. Mais ils auront échangé quelque chose, d'abord, effectivement, le moment de la lecture, c'est important, mais des mots, des idées, des émotions... Et je prépare une collection vraiment où il y aura même pas d'image, parce que je pense que l'enfant n'a même pas besoin d'image. Il a besoin que le parent sorte de sa bouche ce qui sort de ce bouquin. D'ailleurs, Sartre le racontait dans les mots de Sartre, si on lit la page où il s'aperçoit qu'en fait, sa mère est en train de sortir de sa bouche ces petites fourmis qui courent sur le papier. C'est extraordinaire. C'est exactement ça. C'est une expérience. Et l'expérience du lecteur qu'on veut, quand on en aura fini avec les images, les écrans et tout, parce que ça sert à rien de pleurer si on continue à mettre des images partout, eh bien, c'est les mots, les phrases, la fiction, un roman, l'entendre lu, ça s'appellera « Lire avec les oreilles », ma collection, l'entendre lu par un parent qui il prend de l'intérêt, qui fait les voix en plus, parce que voilà, et tout à coup, savoir que on a des images dans sa tête. Parce que le gosse, très vite, il prendra conscience qu'il a, lui, ses images dans sa tête.
Et évidemment, l'enfant peut garder les albums pour regarder des images dans des livres, ce qui est quand même un grand plaisir de l'enfant.
C'est un grand plaisir.
Je voulais vous amener sur un autre sujet, parce que aujourd'hui, des tas de podcasts sont disponibles pour les enfants. Il y en a vraiment des formidables.
Bien sûr.
Alors, est-ce qu'il faut se méfier de ces podcasts qui peuvent remplacer la voix des parents? Est-ce qu'il faut garder du temps pour lire à son enfant, qui est une pratique au passage dont on peut aussi dire qu'elle est socialement située, que cette manière de sortir ces mots de sa bouche et... Moi, je me figure tout à fait là, ce que ça veut dire,
mais oui,
ce que
sûr.
C'est, parce que je le fais
que vous
tous les jours
vécu,
de ma vie.
Bien sûr.
Et donc, c'est ça qui compte, c'est que les mots sortent physiquement.
Mais évidemment, c'est de l'humain. Écoutez, c'est pas compliqué, on revient à Dolto un moment.
Oui.
Elle disait, on humanise l'enfant, c'est le lait de la parole. Le lait de la parole, on peut pas dire mieux. Donc, on le nourrit matériellement, mais on le nourrit aussi... Et pas seulement intellectuellement, psychiquement. Et on lui passe de l'humanité. La personne qu'elle aimait beaucoup, Dolto, avec qui toute la famille allait passer des week-ends, vous savez qui c'était? C'était Jean Rostand. Jean Rostand, le fils d'Edmond.
D'Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac.
Jean, le fils de Cyrano, le fils d'Edmond.
Hein? Oui.
Voilà, le fils. Celui qui était biologiste. Et ils allaient à Ville-d'Avray chercher des grenouilles parce qu'ils faisaient des expériences, là, Carlos et toute la bande. Mais que disait ce gars, dont j'ai adoré la phrase? Chaque fois qu'un enfant naît, c'est un Cro-Magnon qui vagit dans le berceau. Voilà. Ils étaient potes, Françoise Dolto et Rostand. Parce que ils savaient tous les deux que effectivement, c'est pas terminé et qu'il y a du boulot et que la culture, elle vient sur la nature. France Culture, c'est pas pour rien. Mais c'est ce qu'on va ajouter à cet enfant. C'est comment on va le guider et c'est le langage qui le fait. C'est les mots qui le font. C'est l'homo loquor, celui qui parle. Et pas avec que des signes, des gestes et des caresses. C'est pas un doudou, quoi. C'est pas un doudou.
C'est bien Edmond Rostand, évidemment, c'est ce que j'ai voulu dire, je ne sais pas ce que j'ai dit exactement, qui a écrit Cyrano
oui,
de Bergerac.
Oui, bien sûr.
Alors, ces mots, ces paroles qui circulent autour de nous, est-ce que finalement ceux des parents ont plus de valeur et pourquoi? Évidemment, on s'imagine qu'ils en ont une toute spécifique, ça nous... responsabiliser, ça peut aussi nous culpabiliser en tant que parents. Oui.
Culpabiliser? Non, mais moi, je vais tout faire pour vous déculpabiliser. Je suis en train d'écrire un truc pour les 0-1 ans. Et c'est vraiment, je compte sur les parents, parce que je suis tellement désespérée de voir que quand les mères poussent la poussette, elles parlent à leur téléphone et plus du tout à leur môme, que le môme, il entend des voix au-dessus, il sait pas qui et quoi, il comprend que sa mère parle dans le vide, dans une petite boîte. Je sais pas ce qu'ils en tireront, les gosses. Mais ce que je sais, c'est qu'aucune machine, comme les podcasts, etc., ne remplace l'humain. Et si on ne sait pas, les livres sont là et on peut lire des choses. Et je ferai 365 petites miettes pour les parents qui sont en panne le soir, au bord du lit. Et je serais ravie d'avoir fait ça, plus que d'avoir été psy, je crois.
Merci beaucoup, Elisabeth Brami. On peut lire tant de livres pour vous. Vous m'en avez apporté un. Poli, pas poli, le super livre de la politesse, c'est chez Casterman. Et puis, je rappelle le titre de l'éducation selon Dolto, ce qu'elle a vraiment dit pour aider les parents, collection Espace Libre. C'est un poche publié chez Albin Michel.
Avec Patrick Delaroche.
Merci beaucoup pour ce magnifique deuxième épisode de notre série de podcasts. Écoutez le troisième, on va parler de Donald Winnicott.
Ah oui, alors j'adore.